France Inter. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un monde nouveau. Chaque samedi, une heure ou presque, pour comprendre les petits et grands changements qui agitent nos sociétés. Cette semaine, une tendance de fond qui s'impose sous différentes formes et à différentes échelles. 8 ans après la déferlante MeToo, on appelle ça le backlash ou retour de bâton. Un climat de régression concernant les droits des femmes qui a même son slogan. Hey
bitch, salut les salopes, on contrôle votre corps. Devinez quoi ? Les mecs ont encore gagné, ok ? Les hommes ont encore gagné. Et oui, on contrôle vos corps. Votre corps, notre choix.
Votre corps, notre choix, ou ton corps, mon choix, renversement glaçant de mon corps, mon choix. Slogan historique des luttes féministes, voilà le nouveau cri de ralliement pour toute une sphère masculiniste qui triomphait sur les réseaux le soir de la réélection de Donald Trump. Et si l'émancipation féminine et l'égalité de droit ne sont jamais allées de soi, elles rencontrent avec l'époque un mur de rejet particulièrement violent, dont certaines femmes sont aussi les ouvrières.
Derrière tout le discours compassionnel de soutien aux victimes, MeToo est un discours massif de manipulation politique féminine. C'est le même chantage émotionnel qui alimente la guerre des sexes, qui diabolise tous les hommes, qu'ils soient innocents ou coupables, et qui a détruit la confiance en eux-mêmes d'une génération de jeunes garçons qui se réfugient dans la solitude.
Comme Thaïs Descuffon, qu'on vient d'entendre, ancienne porte-parole du groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire, qui sont ces nouvelles figures de femmes qui nourrissent une forme de conservatisme viril sur les réseaux, et qui sont ces dirigeantes qui militent parfois contre les droits acquis par les femmes. C'est le sujet d'un essai stimulant paru chez J.C. Lattès, signé Léane Alestra. Elle sera notre invitée en seconde partie d'émission. Alors, comment penser le féminisme à l'ère du backlash ? La discussion est ouverte dans un monde nouveau.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Quand la vague conservatrice déferle et que les avancées refluent, comment réinventer le féminisme ? C'est la question que je vais vous poser ce soir à mes 4 invités que j'ai bien la chance d'avoir. Laura Adler, bonsoir.
Bonsoir.
Les auditeurs vous connaissent bien, vous avez accompagné et marqué France Culture et France Inter. Historienne, écrivaine, votre dernier essai, La Voix des Femmes, est sorti chez Grasset à l'automne et vous publiez une discussion aux éditions Philo Magazine aussi. Les femmes vont-elles libérer les hommes ? Fruit de vos échanges dans l'émission C'est ce soir, on vous retrouve sur France 5. À vos côtés, Blanche Sabat, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes activiste féministe, autrice de bande dessinée avec la série à succès Mythes et Meufs chez Dargo. Vous êtes aussi derrière le compte Instagram très suivi qui s'intitule La Nuit Remue. Je continue avec vous, Amandine Claveau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez publié Droits des femmes, le grand recul aux éditions de l'Aube, c'était déjà en 2023. Et vous êtes directrice des études et directrice de l'Observatoire Égalité Hommes-Femmes à la Fondation Jean Jaurès. Et puis en duplex de Bruxelles, Laurence Rosier, bonsoir.
Bonsoir.
On vous entend très bien. Vous êtes linguiste, professeur d'analyse du discours et de didactique du français à l'Université Libre de Bruxelles. Et vous venez de publier La Riposte, Femmes, Discours et Violence chez Payot. Voilà, je pense qu'on est bien entouré pour démarrer la discussion. Une question à toutes les quatre sur ce mot de backlash que j'ai prononcé, qui décrit ce retour de bâton suite aux avancées féministes. On doit à la journaliste et écrivaine américaine Suzanne Faludi en 1991, qui dénonçait la montée en puissance tout au long des années 80 d'un discours réactionnaire particulièrement pernicieux. Je m'adresse à la linguiste d'abord, Laurence Rosier. Quelle définition vous en donnez-vous du backlash ?
Mais vous avez dit la traduction « retour de bâton ». Alors, c'est un concept qui a quand même été critiqué aussi parce qu'il y avait un aspect un peu mécanique. On se basait aussi sur un côté uniforme de tous les combats féministes. On oubliait parfois un peu l'histoire. Si par exemple on prend la libéralisation de l'avortement, ben, en Pologne c'est en 56 et le backlash vient dans les années 90 avec paradoxalement une libération mais aussi un retour au rôle traditionnel des femmes. Donc c'est aussi, il ne faut pas isoler les droits de genre et des sexualités, mais je trouve que ça a une vertu explicative dans l'espace médiatique, et donc retour de bâton me va très bien.
Je m'adresse à vous, Laura Adler, est-ce que vous pensez qu'on vit un temps de backlash ou un continuum ? Donc ça, c'est le point de vue de l'historienne.
Je crois qu'on vit les deux choses en même temps. et c'est difficile à comprendre, mais ça a toujours été l'histoire des femmes, depuis extrêmement longtemps, depuis des siècles. Mais on peut dire que le XXe siècle et le XXIe siècle, c'est-à-dire nos 50 dernières années, ont été des années exceptionnelles en ce qui concerne le droit des femmes. Il y a eu une précipitation, une concentration de l'avancée des droits des femmes. Je parle de l'Europe et plus particulièrement de notre pays, mais ça a été accompagné aussi par une augmentation des droits des femmes. Mais le fond de l'air reste le même, c'est-à-dire la domination du patriarcat, la domination de l'homme sur la femme, et à chaque fois qu'il y a une avancée des droits des femmes, c'est évidemment grâce au combat des femmes qui se mettent aux avant-gardes, et c'est aussi grâce à un mouvement de la société qui est entraîné par ce désir de changement, de liberté, de sororité et aussi de démocratie. Aujourd'hui, au moment que nous traversons avec ces sombres temps qui s'annoncent, je voudrais dire que, historiquement, les droits des femmes, les combats des femmes, et ce depuis l'aube de la Révolution française, ont été toujours accompagnés de luttes pour la démocratie. Et ça, je crois que, dans ce moment où on voit bien qu'il y a une contestation de la définition même et de la pratique de la démocratie, on a beau dire illibéralisme, etc., etc., c'est la menace qui pèse sur nous de la démocratie, et les femmes se sont toujours inscrites dans un combat pour la démocratie. Donc, autant il y a de menaces sur la démocratie, où qu'elle se trouve, dans n'importe quel continent, autant il y aura une augmentation sur les femmes qui sont les perturbatrices de l'ordre patriarcal, de la loi de la force et des inégalités.
À la Fondation Jean Jaurès, Amandine Claveau, en termes de statistiques, ce fameux backlash, comment on le mesure ?
Alors déjà, si on revient sur ce terme-là, nous on a mené une étude, un rapport qui s'intitule « Droit des femmes, combattre le backlash ». Nous, pour nous, on voit cette définition comme en fait la façon dont les conservateurs usent d'une stratégie coordonnée, d'un agenda commun qu'on retrouve au niveau international, qui est celui en fait de contrôler le corps des femmes, des sexualités. Et donc ça, c'est ce qu'on montre. C'est une stratégie qui a été, que Suzanne Faludi développe vraiment très bien dans son ouvrage, qui est en fait une bataille culturelle, puisque les conservateurs investissent tous les pans de la société, que ce soit en termes politiques, en termes institutionnels, en termes médiatiques.
Et financièrement aussi.
Et j'allais dire, voilà, d'acteurs économiques. Il y a des financements qui sont au niveau international, qui sont de l'ordre de centaines de millions de dollars, qui sont d'ailleurs difficiles à suivre, parce qu'en fait, ils sont à la fois venant de la droite américaine, mais aussi de la Russie, mais aussi de la dark money. Donc en fait, c'est assez difficile, mais ils bénéficient de millions de dollars pour en fait s'attaquer, menacer et bafouer les droits des femmes. Et si on dézoome un peu et qu'on regarde le spectre au niveau international, l'ONU sort des rapports tous les ans et on constate aujourd'hui, si, au rythme actuel, il faudrait 300 ans pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes, donc on est encore très loin du compte. Et j'ajoute, pour rebondir à ce que disait Laure Adler, un des derniers rapports aussi qui vient de sortir montre bien qu'en fait l'affaiblissement de la démocratie va en fait main dans la main avec la lutte contre l'égalité entre les genres. Et donc effectivement, ça, il faut regarder ça de près, parce qu'à partir du moment où on s'attaque aux droits des femmes, aux droits des personnes LGBT, aux droits des minorités, en fait, on s'attaque à la démocratie, au système démocratique qui touche les droits fondamentaux des personnes.
Blanche Sabat, dans ce contexte, vous arrivez donc avec votre série de bandes dessinées Mythes et Meufs, vous avez aussi travaillé sur l'histoire du féminisme, hein, que vous avez mis en image, et puis votre militantisme, donc vous êtes à la fois portée par la vague MeToo et maintenant face au mur de ce retour de bâton.
Complètement, et on est très exposé sur les réseaux sociaux, quand on est activiste, quand on est journaliste aussi, quand on est une femme, une minorité de genre, simplement exister, c'est quelque chose qui dérange. Et je suis d'accord avec vous que un des éléments qui est le plus prégnant en ce moment, c'est la décomplexion totale avec laquelle des idées misogynes et racistes peuvent être exprimées.
Misogynes, racistes, antisémites aussi, vous l'avez souligné dans une tribune.
Oui, complètement. Je fais les frais des trois, en fait, donc c'est comme ça, voilà, c'est le bingo. Pour autant, je trouve que le concept de backlash, il a la vertu de nous avoir rendus vigilantes à ces périodes-là. Et surtout d'avoir mis en exergue le côté pérenne et tristement monotone et très peu créatif et inventif du discours masculiniste. C'est toujours les mêmes arguments. Et donc, avec le concept de backlash, qui n'est pas noir ou blanc, qui n'est pas si binaire que ce qu'on voudrait nous faire croire, on a aussi une étude de quelles sont les stratégies qui ont été mises en place, et c'est souvent les mêmes, et c'est souvent les mêmes depuis très longtemps, pour essayer d'endiguer la conquête des droits et pour essayer de imposer une espèce d'hégémonie culturelle de droite masculiniste contre laquelle nous on lutte. Et donc du coup pour moi le backlash il doit nous servir à penser nous aussi nos stratégies pour ne pas leur laisser un centimètre de terrain.
Quelle riposte alors féministe face au backlash ou retour de bâton, on en parle dans Un Monde Nouveau juste après les Anglaises de Wet Leg. Wet Leg sur France Inter. 4 ans après leur tube Chase Long, les deux Anglaises phénomènes sont de retour avec un deuxième album Moisturizer, attendu pour le 11 juillet prochain. En extrait, c'était ce morceau Catch This Feast, inspiré d'une altercation réelle avec un homme agressif qu'elles ont choisi de transformer en hymne ironique. Préparez-vous pour la bagarre.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Quels sont les vents contraires qu'affrontent l'élan MeToo et quelles ripostes féministes se mettent en place? On en parle dans cette première partie d'émission avec un quatuor de choix, l'historienne Laure Adler, l'experte Amandine Claveau de la Fondation Jean Jaurès, l'activiste Blanche Sabat et la linguiste Laurence Rosier en duplex de Bruxelles. Les ripostes féministes, notamment dans le langage, c'est précisément le sujet de votre livre, Laurence Rosier.
Évidemment, dans ce livre, j'ai voulu aussi aborder l'histoire des ripostes contemporaines, parce qu'en fait, c'est clair qu'il y a eu le paradigme MeToo, qui en soi est une riposte collective, hein, à partir de témoignages individuels par rapport à une médiatisation des violences subies. Mais et j'ai aussi abordé cette riposte du point de vue de la langue et des discours, bien entendu, puisqu'il y avait un enjeu sur la parole publique, et on sait que la parole c'est le début, hein, de tous les combats. La parole fait agir, enfin en tout cas je le crois et je l'espère. Et c'est aussi venu en fait d'un travail très précis de terrain. C'est que quand j'ai travaillé sur l'insulte pendant des années,
oui, des décennies sur l'insulte,
mon ouvrage de l'insulte aux femmes, j'avais beaucoup de témoignages de femmes qui venaient me dire « oui, je me reconnais dans cette situation, on m'a dit telle insulte, etc. » Mais comment on répond ? Comment on riposte ? Comment on réplique ? Et donc, à ce moment-là, on faisait des ateliers, parfois pour riposter de façon pas synchronique, évidemment, puisque c'était une insulte qu'elles avaient reçue, elles n'avaient pas répondu. Et d'ailleurs, on se demandait s'il fallait toujours répondre, parce que finalement, la montée en tension que provoque une insulte peut aller, évidemment, vers une violence beaucoup plus importante. Donc, la question de la riposte, elle est aussi liée au backlash, parce que finalement, quand on dit backlash, c'est qu'on dit, y a une réaction, qui dit réaction dit contre-réaction, qui dit riposte dit contre-riposte. Et vous l'avez bien montré avec la reprise d'un slogan féministe par les masculinistes, ça c'est le pire pour nous, c'est qu'un slogan soit, alors que le détournement des slogans est très féministe en fait dans nos pratiques, que ça soit repris par les masculinistes, ça évidemment nous dit, eux aussi ils vont prendre le langage pour effet performatif.
Vous parlez des réseaux sociaux aussi, Laurence Rosier, c'est très intéressant, sur l'ambivalence de la toile pour vous. C'est à la fois l'espace de l'expression et c'est le piège du harcèlement, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Ça dépend. Enfin, c'est aussi mon expérience, c'est-à-dire que quand je me suis inscrite sur les réseaux sociaux, j'ai vu à la fois la diffraction des savoirs situés féministes, et c'était magnifique. Et puis aussi, l'une de vos intervenantes l'a dit, c'est-à-dire qu'on a l'impression que plus il y a une visibilisation, plus il y a de la violence, et de la violence immédiate, de la violence de haine, de la menace, de l'incitation à la haine, et comme s'il y avait une espèce toujours de jeu de bascule, qui fait que d'ailleurs, malheureusement, beaucoup de femmes, à un moment, ont quitté les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs ce que la police leur disait, écoutez, protégez-vous, si on quitte notre espace d'expression, c'est évidemment terrible. Et cette figure de la toile que je vois comme une araignée, hein, tantôt menaçante, tantôt enfantine et tantôt aussi vraiment rusée. J'ai essayé de la décliner pour dire qu'il y a vraiment, il faut tisser la toile tout en s'en protégeant, et tisser la toile, c'est développer cette fraternité, cette sororité, cette adelphité, qui pour moi aussi est un des piliers du combat démocratique dont a parlé Laure Adler.
Et cette langue aussi, comment est-ce que vous répondez, par exemple, Blanche Sabat ? Comment vous trouvez justement la formule riposte à ces attaques dont vous nous parliez justement ?
Pour moi, justement, vous avez dit le mot, c'est performatif, le langage. Et donc, en fait, on utilise un terme, on réinvestit un terme, on remet au goût du jour, par exemple, les noms de métiers féminins. Moi, je me présente comme autrice, comme illustratrice. Je ne dis pas que je suis artiste-auteur, je dis que je suis artiste-autrice, alors que le statut n'est pas au féminin, hein, administrativement. Et en fait, le faire, c'est déjà le faire advenir. Le dire, c'est le créer. Et comme l'usage prévaut dans la langue, on n'a pas besoin d'attendre une validation de l'État, du gouvernement, qui nous adoube l'écriture inclusive pour pouvoir la faire exister dans le langage. Donc ça, c'est très très puissant. Et pour revenir un peu sur le harcèlement et sur cette ambiguïté de la toile, à laquelle je souscris totalement, moi j'essaye de me servir de cette violence, que je minimise absolument pas, qui est vraiment difficile à supporter, j'essaie d'en faire un outil en fait, et aussi de me servir de ça pour retourner le stigmate. Moi je m'en sers pour afficher la violence que je reçois, parce que une des choses sur lesquelles le backlash a été très efficace, notamment dans les décennies 80-90, c'est que ça a convaincu les gens que la lutte était gagnée, et que donc du coup, moi un truc que j'ai le plus entendu quand j'ai commencé à militer dans le féminisme, c'est « mais c'est bon, l'égalité, vous l'avez ». Et donc ça, c'était vraiment le mensonge le plus efficace, qui était que en fait, elles nous saoulent les féministes, parce que pourquoi est-ce qu'il faudrait lutter ? Finalement, elles ont acquis tout ce qu'elles voulaient, elles ont leur droit à l'égalité, ça existe. Alors même que non, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de prouver que non, l'égalité, on l'a pas, il n'y a pas besoin de se demander pourquoi on lutte, parce que c'est extrêmement explicite qu'il y a une violence misogyne complètement décomplexée.
Il y a aussi une violence parfois qui ne vient pas d'un groupe structuré et qui a décidé. C'est lorsqu'on on va se retrouver que le phénomène du Covid, vous l'avez très bien montré, Amandine Claveau. Là, tout d'un coup, ce sont les coutures, on va dire, inégalitaires de la société qui se retournent, qui apparaissent. Et c'est les femmes qui ont été principalement touchées. Ça a été un effet aussi d'accélérateur du backlash.
Oui, absolument. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des reculs qui sont conjoncturels et les crises en font partie, que ce soit des crises politiques, économiques, pour reprendre la phrase de Simone de Beauvoir, voilà, de dire qu'il faut être vigilante parce que justement, dès qu'il y a des crises, les premiers droits qui sont attaqués sont les droits des femmes. Et le Covid-19 a fait perdre plusieurs générations de progrès. C'est le Forum économique mondial en 2021 qu'il disait d'entrée, donc un an après la pandémie de Covid-19. Qui a eu un impact sur tous les pans de la vie des femmes, que ce soit, on en a beaucoup entendu parler, des violences sexistes et sexuelles, et notamment l'augmentation et l'explosion des violences conjugales, mais ça s'est aussi vu en matière d'accès à l'avortement et d'accès à la contraception, ou encore dans les domaines économiques, c'est-à-dire dans le marché de l'emploi. Les femmes ont été durement impactées durant cette période-là, et également en termes de représentation des femmes. Voilà, on a beaucoup parlé des plateaux télé et radio qui étaient finalement, là il n'y avait pas d'expertes qui étaient présentes sur les plateaux pour commenter le Covid-19, en effet, puisqu'elles étaient plutôt en fait au foyer, occupées en fait à la charge domestique et familiale, et on l'a vu d'ailleurs même aussi sur l'écriture d'articles scientifiques. Là, les hommes ont eu la propension à écrire des articles scientifiques de manière exponentielle, les femmes ont été complètement absentes dans le champ scientifique à cette période-là.
Ça se fissure aussi du côté des féministes parfois, parce qu'on l'a vu, ça crée des réactions. Par exemple, la publication du livre de Caroline Fourest sur le vertige MeToo, avec ce titre qui a aussi fait parler, parce qu'il y a quelque chose de négatif évidemment dans le vertige, mais il y a aussi des excès, on l'a vu avec des condamnations comme ça de Julien Bayou, sur lesquelles voilà, on est revenu, la justice l'a innocenté, enfin en tout cas l'a déclaré non coupable, pour reprendre les termes précisément. Donc là, il y a aussi un front qui s'est fissuré dans ce contexte-là.
Le féminisme est un mouvement. Le féminisme est en mouvement. Le féminisme, historiquement, politiquement et encore aujourd'hui, est un mouvement de diversité d'opinions. Sa grande force à travers l'histoire, et notamment au XIXe siècle, au XXe siècle, au XXIe siècle, c'est justement sa diversité. Le féminisme n'est pas un parti. Nous n'avons pas de carte. Nous avons beaucoup plus que cela. Nous avons des forces de conviction, nous avons des modes de combat, nous avons des modes de résistance, nous avons un esprit de solidarité pour un combat collectif qui concerne aussi les hommes. Et donc cette diversité des mouvements, à mon avis, engrange, mais je peux le prouver aussi historiquement, engrange des dividendes pour être plus forte, plus solidaire face à ces tsunamis de masculinisme et d'attaque de la démocratie. Alors qu'il y ait des filles qui s'inquiètent des mouvements féministes et du renouvellement. Et moi, je voudrais dire merci à cette jeune génération que vous avez invitée, Mathilde, aujourd'hui, qui a repris le flambeau de manière magnifique au moment de MeToo et qui réinvente tous les jours, comme vous le faites toutes les deux, des modes intellectuels, des modes artistiques, des modes ironiques, des modes subversifs pour enrichir le féminisme. C'est une grande, grande, grande force. Et arrêtons de semer la division en disant que nous sommes déchirés. Non, nous sommes animés des mêmes forces intellectuelles, morales, politiques et poétiques.
Waouh, il n'y a pas un effet de division, il y a un effet de pluralité,
oui,
qui est fécond.
Absolument.
Pour vous, Laura Adler, d'un mot, Amandine Claveau, parce qu'on doit conclure.
Oui, non, mais simplement
mais
dire.
En même temps, on vous donne la parole.
Simplement dire qu'il y a des féminismes, et moi je trouve que ce qui est important de regarder quand on voit l'opinion publique, c'est que on peut porter au crédit des mobilisations féministes et des associations féministes le fait que ce combat-là, il a gagné les esprits et les têtes. Il y a aujourd'hui 6 Français sur 10 qui se déclarent féministes. On a mené une enquête à la Fondation Jean Jaurès qui l'indique. Et ça, c'est 10 points de plus qu'il y a 10 ans. Et c'est 16 points de plus chez les hommes. Et donc là, il y a tout un pan de la société qui a pris conscience des violences sexistes et sexuelles, notamment à la faveur du mouvement MeToo. Et donc ça, c'est à porter au crédit des mobilisations féministes, et c'est positif et optimiste pour la suite.
Merci Amandine Claveau pour cette note d'optimisme, et merci à toutes les quatre. Il y a aussi des femmes qui portent de plus en plus un conservatisme viril. C'est le sujet d'un essai publié par Léana Lestra qui nous rejoint juste après le rappeur Vald.
J'ai envie de rien. Mes pensées se remplacent et se balayent. Tu sais, l'ophanocéphalie. Tant que ça charge, j'ai oublié ce qu'on regardait. J'parle en cétacé. Jamais un jour à jeun. Jamais un jour à jeun. Jamais un jour à ouais. Jamais. Jamais un jour à jeun. Jamais un jour à jeun. Jamais un genou à terre. Le Guaya, c'est pas le Covid. Hey, si je suis moins fort que la console, je vais rien faire pour la cause. Hey, si je suis moins fort que la console, je vais rien faire pour la cause. Hey, arrêtez de me parler de ça. Demain j'arrête, demain j'arrête, demain j'arrête, demain j'arrête, demain j'arrête.
Demain.
Le monde tourne déjà sans moi, comme il tournait déjà sans moi. Le monde tourne déjà sans moi, comme il tournait déjà sans toi. Et tout me glisse dessus, façon je retiens rien. Façon j'ai ces des fils de pute, j'peux tous les foutre dans un joint. Ah, j'ai la patience d'avoir la flemme, ça compte plus vraiment si on m'aime. J'guette un documentaire sur Athènes, ensuite un débat sur le blasphème. Tout est vague et sans importance. Quand j'y pense, tout est vague et sans importance. Si j'y pense, c'est tellement bon, c'est un coup à ne plus jamais revenir.
Jamais revenir.
T'es bien endormi, vous me fatiguez, je vais me rendormir,
je vais me rendormir.
C'est beaucoup d'argent pas fait. Check au studio, ils veulent me baffer. Même moi des fois j'y pense. Même moi des fois j'y pense. Je ne sais plus qui je suis, ce que je veux, ce que je crois. C'est toujours dans le même sens. Et j'sens leur patience s'user. Un nuage de fumée me contient. J'en conviens, ça me convient. Hey. Un nuage de fumée me contient. Et moi, j'en conviens, ça me convient. Jamais un jour à jeun. Jamais un jour à jeun. Jamais un jour à ouais. Jamais. Jamais un jour à jeun. Jamais un jour à jeun. Jamais un genou à terre. Le Guaya, c'est pas le Covid. Le monde tourne déjà sans moi, comme il tournait déjà sans moi. Le monde tourne déjà sans moi, comme il tournait déjà sans toi. Et tout me glisse dessus. Façon je retiens rien. Façon j'ai ces des fils de pute. J'peux tous les foutre dans un. J'ai les poumons, les dents tachées. Tous mes couplets sont entachés. Tout ce temps tué à rien faire. Il faut des grands sachets. J'ai les mains attachées et je suis même pas fâché. De toute façon, je voulais rien faire. Je vais même pas gâcher.
Après 2 ans d'absence, Vald est de retour avec Pandémonium, un album qui a explosé les compteurs à sa sortie avec plus de 3 millions d'écoutes en moins de 24 heures. Pandémonium représente la capitale de l'enfer et de ses angoisses nombreuses chez le rappeur. Ce sont ses nouveaux thèmes d'écriture, mais aussi un certain reflet des ombres qui nous entourent.
Mathilde Serrel, un monde nouveau sur France Inter.
Bonsoir Léana Lestra.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Mais de rien, vous aussi vous êtes militante féministe, décidément, c'est un sacré club aujourd'hui, fondatrice du média en ligne Mécréante, et vous venez de publier chez J.C. Lattès, Les Vigilantes, Surveillées et Surveillantes, ces femmes au cœur de l'extrême droite, un essai qui nous a intéressés pour prolonger cette discussion sur les féminismes face au backlash. Et en préambule, vous nous dites quand même que pendant longtemps, on avait du mal à imaginer que des femmes puissent défendre des idées d'extrême droite, carrément d'ailleurs, les scrutins le prouvaient, les femmes votaient moins pour les partis d'extrême droite. Ça a changé. En 2024, les femmes ont tout autant voté que les hommes pour le RN. Et aux États-Unis, 53% des femmes blanches ont voté Trump. À quel moment vous situez le point de bascule ?
Alors, je dirais que ça fait à peu près 15 ans quand même qu'il y a des stratégies, du moins en Europe, pour essayer d'aller vers plus de féminisation des scrutins. Donc, notamment avec quand Marine Le Pen est arrivée, il y a eu ensuite toute une stratégie qui l'a accompagnée, tout simplement parce qu'il y a des quotas dans beaucoup de pays. Et donc, il faut qu'on puisse présenter des femmes déjà, donc de former des femmes d'extrême droite. Et puis aussi, il faut convaincre les femmes que ce projet est aussi pour elles, même s'il ne l'est pas.
Les femmes, en fait, c'est le réservoir de vote de l'extrême droite ?
Complètement.
Donc c'est la stratégie première,
c'est
le réservoir de vote.
Oui, c'est une des stratégies et c'est un cap qui est vraiment important pour eux en tout cas. Et donc il y a tout un tas de façons de faire voter les femmes à l'extrême droite ou du moins d'essayer de... Parce que ça sert aussi à rendre leur parti plus doux, de mettre des femmes en avant, etc. Donc il y a aussi le fait qu'on a besoin que les femmes votent, mais on a aussi besoin, dans un premier temps, pour être acceptées, d'assagir l'image en fait, de l'extrême droite, qui est pour beaucoup encore perçue comme trop violente, et on assimile encore la violence au masculin, ce qui est une erreur. Et de là...
Et la douceur aux femmes.
Exactement.
C'est quoi pour vous ce que représente le symbole ou le cas Alice Weidel, qui est la patronne de l'AFD, patronne lesbienne, qui n'est pas forcément dans les, on va dire, les queers ne sont pas forcément les premiers représentants à l'extrême droite, les femmes queers en tout cas, on n'en a pas vu beaucoup comme dirigeante de parti, c'est sans doute la première.
Oui, alors c'est intéressant son cas parce qu'en plus c'est un petit peu unique à l'extrême droite, donc c'est une femme effectivement lesbienne, mais ça reste quand même une petite fille de nazie qui vient d'une classe extrêmement bourgeoise, qui est mariée, qui a des enfants, qui est blanche évidemment, donc même si elle est lesbienne, elle coche quand même quelques cases, et par ailleurs elle est considérée comme plus libérale que son parti, et donc justement elle, son rôle ça va être de convaincre des personnes un petit peu plus libérales de se rapprocher de l'AFD, et donc en fait elle a une utilité stratégique à ce niveau-là, et en même temps, elle va dire, par exemple, oui, je suis...
Si quelqu'un de libéral adhère à ces thèses, c'est donc on peut tous s'y retrouver plus
exactement,
largement.
Exactement.
Vous posez cette question dès le départ aussi, comment expliquer que des femmes puissent voter pour un candidat, Trump en l'espèce, qui a dit qu'il fallait les traiter comme de la merde. Là, vous êtes allé chercher des propos d'un magazine new-yorkais au début des années 90. Selon vous, le pari des femmes votant Trump, c'est parfois un pari de privilégié. Vous pouvez nous expliquer ce concept ?
Oui, bah, toutes les femmes n'ont pas les mêmes privilèges dans la société. Il y a des femmes blanches ou des femmes bourgeoises qui ont des intérêts de classe ou de race et qui vont préférer défendre leur intérêt de classe ou leur intérêt de race au fait de subir des discriminations de genre, par exemple.
Donc l'idée, le pari, c'est qu'on va moins perdre en étant du côté, on va dire, du conservatisme sur l'égalité homme-femme, voire carrément du traditionnalisme, que dans l'émancipation.
Complètement. Bah, j'aime bien dire qu'elles sont les femmes blanches, hétéros, etc., sont à la croisée des chemins de ce qui compte et de ce qui ne compte pas. Donc soit elles choisissent de se mettre du côté des opprimés, soit des oppresseurs.
Vous évoquez plus largement un récit de départ, qui est le récit, le grand récit nationaliste. Dites-vous, les hommes se voient attribuer un rôle central, celui de protecteur et de défenseur, incarnant à la fois la force militaire et la sécurité nationale. C'est cette figure de l'homme gardien de l'ordre, rempart contre les menaces extérieures et intérieures, qui participe au choix de ces femmes, finalement, une croyance ancestrale, pas forcément stratégique.
Oui, c'est pas forcément stratégique et elle aussi parfois adhère à l'image qu'on va leur envoyer d'elle-même, qui va être dans les récits nationalistes, on va considérer que les femmes sont un peu l'extension du territoire, donc quand on a ces expressions de mère nature par exemple, c'est toutes des images où voilà, la femme c'est l'extension du roman national et aussi du territoire, et donc certaines femmes par croyance, par opportunisme, par intérêt personnel, etc. peuvent adhérer à ce régime de pensée. Ouais.
Élection après élection, l'extrême droite gagne du terrain. Vous avez évoqué le cas de Marine Le Pen, qui a été frappée d'inéligibilité mais qui fait appel, Giorgia Meloni en Italie, Alice Weidel en Allemagne, elles ont un rôle vraiment dans cette dynamique, c'est-à-dire que pour vous, ce sont des figures politiques qui ont vraiment aidé à convaincre.
Oui, complètement. Bah, Giorgia Meloni en est la preuve. Elle a été, elle a convaincu énormément et toujours en se basant justement aussi sur cette image de mère de la nation qui va permettre de la régénérer.
On l'écoute, Giorgia Meloni.
Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete.
On l'entend, hein, le coup de la mère nation dans cette déclaration, la mère chrétienne, et vous ne me le retirerez pas, c'est ce qu'elle dit à la fin. Mélanie, c'est aussi une des dirigeantes européennes les plus critiques à l'égard de l'IVG, et vous évoquez l'instrumentalisation de la capacité reproductive des femmes comme force de contrôle. C'est le cas en Hongrie, en fait, les citoyennes vont recevoir des récompenses fiscales à partir du moment où elles engendrent et elles occupent leurs activités domestiques du mieux possible. Il y a un bon point qui est donné à la femme traditionnelle.
Complètement, et puis c'est pas repris que par l'extrême droite, parce que Emmanuel Macron, quand il parle de réarmement démographique, par exemple, il s'inscrit totalement dans cette logique, donc il est pas forcément d'extrême droite.
Il est pas d'extrême droite, quand même.
Mais
oui,
il fait le lit de l'extrême droite quand il reprend cette idée de réarmement démographique qui vient souvent avec...
Le vocabulaire militaire, vous dites, laisse une trace de cette politique-là. On va écouter un extrait d'une série qui nous a évidemment paru en regard parfait avec cette histoire. C'est La Servante Écarlate ou Hands My Tale, écrit à la base par Margaret Atwood.
Ne croyez jamais qu'une femme qui obéit est une femme faible. Je l'ai lu dans La Place d'une femme. C'est un véritable plaidoyer pour ce qu'on appelait le féminisme domestique.
Merci beaucoup. C'est très gentil.
Je vous ai vu parler lors d'un meeting avant la guerre. Vous étiez tellement passionnée.
Les femmes abandonnaient leur famille. Il fallait urgemment que les choses changent. Nous manquions de temps.
Dites-moi, puis-je savoir si vous pensiez qu'une telle société existerait, dans laquelle les femmes n'ont plus le droit de lire votre livre? Ou quoi que ce soit d'autre?
Non. Non, je l'ignorais.
Extrait de la saison 1 de Handmaid's Tale. Déjà, une réaction, un commentaire, une analyse de cet extrait, Léana Lestra.
Bah déjà, ce que je trouve hyper intéressant dans cet exemple, c'est qu'on voit bien que les femmes d'extrême droite, elles peuvent avoir un pouvoir rapidement, mais souvent, il y a un coût. Et ce coup, c'est leur invisibilité ou leur réassignation sur le plus long terme.
Pour donner le contexte, on entend Serena Joy, qui est théoricienne d'un système tyrannique où la femme, reléguée à son rôle d'épouse et de mère, ne peut plus échapper en fait, à cette contrainte. On voit là-dedans aussi dans cet extrait de Handmaid's Tale, c'est l'idée d'un contrôle ou en tout cas d'une vigilance des femmes par les femmes ou sur d'autres femmes. C'est ça qui vous a intéressé?
Oui, bah c'est pour ça que ça s'appelle Les Vigilantes, le livre, parce qu'en fait, il y a cette idée derrière qu'on demande aux femmes d'extrême droite de à la fois se surveiller elles-mêmes, puisqu'elles doivent montrer l'exemple de qu'est-ce qu'une femme respectable, donc elles doivent montrer cet exemple-là aux autres, et en échange, elles ont un droit de surveiller les autres femmes, et notamment les femmes inférieures à elles dans la hiérarchie sociale.
Est-ce que vous diriez aussi que le poids des collectifs de mères, c'est important dans le combat politique? On voit qu'il y a des forums d'entraide qui ont des forces de plus en plus importante, puisque en Grande-Bretagne, les candidats doivent passer parfois devant les représentants de ces forums. Il y a un impact de plus en plus grand, il y a des collectifs, des associations, parents vigilants qui sont liés par exemple à Éric Zemmour. Comment est-ce que vous analysez dans cette grande mouvance à l'extrême droite et du rôle des femmes à l'extrême droite, la place des maires, des assos de maires?
Alors j'ai l'impression que c'est quand même plus le cas...
M-E-R-E-S-O.
Oui. J'ai l'impression que c'est un peu plus développé aux États-Unis où pour le coup on sait que là pour l'élection de Trump ça a eu un impact vraiment hyper important. En France j'ai l'impression...
Les Moms for Liberty.
Oui c'est ça, les Moms for Liberty ont eu un impact très fort dans la campagne et Trump l'a beaucoup investi. Ensuite j'ai l'impression qu'en France c'est un tout petit peu moins le cas, mais quand même parents vigilants, moi j'ai beaucoup de profs autour de moi qui me racontent qu'il y a vraiment une pression qui est mise par les parents vigilants, et je dirais pas forcément que c'est que les mères en France, j'ai l'impression que les pères aussi sont investis dans les syndicats parents d'élèves d'extrême droite, mais oui c'est préoccupant en tout cas.
On a parlé des mères, on a parlé des épouses, et maintenant il nous faut parler des jeunes guerrières et des nymphes militantes, parce que dans votre livre vous parlez justement de ces différentes figures, différentes familles, des femmes qui nourrissent le combat à l'extrême droite. Et ce collectif, par exemple, Némésis, fait partie de ces nymphes guerrières qui se revendiquent féministes. On va les écouter.
Je vais pas commencer à dire qui est la bonne et qui est la mauvaise féministe parce que je ne suis pas comme elle. En revanche, je pense que sur certains sujets, elle manque un peu de courage. Notamment, je pense à la question migratoire, je pense à la question de l'islam. Et nous, on est là pour compléter un discours qui je pense, est manquant, notamment dans la sphère publique.
Alice Cordier, donc, qui dirige le collectif Némésis, c'était le 8 mars dernier, donc Journée internationale des droits des femmes. Comment Némésis fait le lien entre féminisme et extrême droite, selon vous, Léa Nalestra ? On l'entend un petit peu là, mais expliquez-nous ce qu'elle veut dire.
Oui, bah, elles font partie du coup d'un groupuscule identitaire, comme vous l'avez dit. Donc elles, leur but, c'est de faire un lien entre femmes, insécurité, immigration, avec l'idée que les premiers responsables des agressions ou sexuelles ou conjugales, etc., ce seraient les hommes non blancs. Donc pour ça, elles vont taire, par exemple...
Ou les OQTF, les migrants, etc.
Oui, c'est ça. En fait, elles essaient vraiment, c'est pour ça, de faire ce lien femme, insécurité, immigration. Et donc, faire avancer leur projet raciste en utilisant, en fait, le combat féministe, parce que celui-ci est populaire depuis ces dernières années. C'est un mouvement de masse. Et donc, du coup, elles veulent spoiler vraiment les outils qui ont été développés par les féministes pour servir un agenda raciste.
Réappropriation des tactiques féministes, c'est aussi la stratégie de Némésis, vous en parlez, c'est intéressant, c'est un renversement. On parlait de ton corps, mon choix, votre corps, notre choix, tout à l'heure dans la voix des masculinistes le soir de la victoire de Donald Trump, mais là aussi un renversement complètement des slogans, elles font des collages comme l'ont fait beaucoup de féministes contre les féminicides, sauf qu'elle, c'est contre des francocides. Elle se revendique le statut de sorcière brûlée par l'Inquisition, récupérant cette figure de la sorcière qui a été très réactivée par Mona Chollet depuis son essai en 2019. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces nouvelles tactiques? Ça n'existait pas avant. Comment est-ce que vous l'observez? Et qu'est-ce que ça dit de l'époque?
Alors, il y a déjà eu des féministes nazies, des féministes qui se revendiquaient eugénistes, donc il y a déjà eu ça, mais là, la particularité, c'est que c'est vraiment des femmes d'extrême droite qui ont été formées dans des institutions d'extrême droite, avec un projet, comme on montrait, une start-up, pour récupérer en fait le temps médiatique et l'attention et les outils féministes pour se remettre en avant, pour aussi moderniser un petit peu l'extrême droite, montrer qu'elle sait s'adapter à l'époque. Et donc, il y a aussi cette idée chez Némésis de surfer sur les mots qui sont développés médiatiquement pour garder en fait le devant de la scène à tout prix.
Est-ce que finalement sur les réseaux ça fait la blague ?
Alors je pense que c'est assez difficile à dire, on verra d'ici quelques années. Au début, moi quand je les ai observées depuis le début, elles ont vraiment eu beaucoup de mal, ça a pris vraiment du temps. Elles ont testé beaucoup de tactiques différentes, elles se sont assagies là depuis les législatives de 2024 parce qu'elles sont rapprochées du Rassemblement National alors que de base elles étaient vraiment dans les groupuscules identitaires et à la limite proches d'Éric Zemmour. Mais du coup là elles se sont un petit peu, donc maintenant elles arrêtent de poser avec des semi-automatiques ou au stand de tir parce qu'elles essayent un petit peu d'assagir leur image pour le grand public justement.
Et il y a une autre figure médiatique intéressante qui porte des discours d'extrême droite aussi puisqu'elle vient de Génération Identitaire, qui a un groupuscule qui a été dissous, c'est Thaïs Descuffon. On l'a entendu dans le sommaire de cette émission, elle incarne selon vous donc une nymphe moderne de l'extrême droite, là pour séduire un public masculin qu'elle enjoint à être des vrais mecs, des vrais durs. Ça, c'est encore une autre phase, un autre volet de cette action des femmes dans la sphère de l'extrême droite. Elle est pro-manosphère, comme on dit, la sphère masculine.
Oui, c'est vraiment une militante masculiniste. D'ailleurs, elle a pas mal de désaccords avec Alice Cordier. On n'aura pas le temps de développer, mais c'est dans le livre. Et c'est assez intéressant, Thaïs Descuffon, parce qu'elle elle se revendique égérie. Elle dit aussi que les médias l'ont placée la première dans ce rôle-là d'égérie. Alors, il faut prendre avec attention ce qu'elle dit, parce que c'est une excuse de fausse modestie, en fait, pour dire c'est pas moi qui ai voulu cette place de pouvoir. On m'y a mis, et du coup, je ne fais que faire mon devoir. Donc, elle est un petit peu, parce qu'en fait, elle est toujours dans une forme de précarité entre ce qu'elle prône et ce qu'elle fait. Elle prône que les femmes doivent faire 6 enfants quand elles sont blanches, mais elle n'en fait pas, etc. Donc elle doit toujours un petit peu justifier sa propre place.
Mais vous parlez de cette figure, justement, de la militante femme d'extrême droite qui, dans ses jeunes années, se sacrifie. Elle dit donc en effet qu'elle voudrait rentrer dans le Laurent, mais qu'elle n'en a pas le luxe, parce qu'il n'y a plus assez d'hommes dignes de défendre le pays.
C'est une belle pirouette quand même, hein, pour justifier sa place, parce qu'effectivement, elle vient d'un milieu hyper intégriste, et en fait, elle n'avait pas forcément d'opportunité, si elle voulait rester proche de sa famille, d'accéder à des formes de pouvoir politique, médiatique, etc. Et donc là, on voit que c'est tout un récit qui permet certes de mobiliser les jeunes hommes, mais qui permet aussi de justifier sa place dans toutes les paradoxes qu'elle crée, en fait.
Sur la question de l'affaiblissement de l'homme, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous faites le lien avec la fin du 19e siècle. Vous dites, au moment où l'antisémitisme monte en France, sous les mots de Drummond, on va retrouver cette figure du juif comme l'homme faible. Ça, c'est assez étonnant, en fait, de... On va dire que la connexion avec une extrême droite qui a une tradition antisémite se fait aussi là, sur la faiblesse de l'homme et là, qui attaque nommément le juif, en tout cas, à la fin du 19e.
Complètement, mais c'est toujours la même logique. Et d'ailleurs, on le retrouve un peu dans le discours d'extrême droite anti-woke aujourd'hui, parce que ce discours antisémite, il était aussi souvent lié à un discours homophobe. Donc c'était les juifs et les homosexuels dès le 19e siècle. Et donc là aussi, dans l'image de l'homme soja, par exemple, de l'homme faible, qui dégénère, entre guillemets, etc., il y a toujours en fait une réactivation de ce discours du surhomme qui va protéger la nation, etc., opposé à l'homme qui se serait laissé aller à trop d'écoute de lui-même, trop d'écoute des autres et qui du coup ne pourrait plus assumer son rôle viril.
L'homme déconstruit, c'est l'homme faible en fait, dans cette rhétorique.
Dans cette rhétorique, complètement.
Vous appelez donc votre livre « Les vigilantes ». Qui sont-elles ?
Les vigilantes, c'est justement l'image des femmes qui se surveillent elles-mêmes et qui surveillent les autres dans ce récit national.
Avec une touche d'espoir, vous aussi à la fin du livre, vous avez une idée pour en finir avec ce système, c'est de sortir de la victimisation. On a parlé tout au début, la nation, le nationalisme est accompagné comme idéologie par cet homme fort et protecteur des invasions et des dangers extérieurs et intérieurs. Et au fond, c'est cette position de victime assaillie qui est le début de tous les maux. Pour vous, faut en finir avec ça pour pouvoir inverser cette tendance.
Oui, il faut sortir absolument de l'essentialisme, notamment qui touche les femmes, qui va les construire, leur construire une image de femmes faibles, incapables de se défendre, qui serait toujours qui ne serait jamais un sujet politique, mais toujours un objet de discussion. Et donc c'est un récit extrêmement victimisant, mais stratégiquement, parce que effectivement, quand elles sont vraiment victimes de violences sexuelles, là on ne les écoute pas. Mais on va les enfermer dans un récit victimaire uniquement quand ça sert des intérêts racistes, nationalistes, etc. Donc il faut absolument en sortir, ça c'est sûr.
Oui, vous dites « Les femmes, ainsi réduites à leur douleur, sont privées de la possibilité de se défendre car elles sont d'abord perçues comme des objets à protéger plutôt que comme des actrices de leur propre émancipation. » Voici les mots de Léane Alestra. Pour y voir un petit peu plus clair dans la sphère du backlash porté par les femmes. Votre livre « Les vigilantes, surveillées et surveillantes, ces femmes au cœur de l'extrême droite » s'est paru chez J.C. Lattès. Et merci aussi à celles qui nous ont accompagnées en début d'émission, Laure Adler, on cite les livres, hein, mais pas tous, « La voix des femmes » chez Grasset ou encore « Les femmes photographes sont dangereuses », un livre coécrit avec l'historienne d'art Clara Bouvresse et paru chez Flammarion. Et puis ce podcast « Femmes d'exception » de France Inter à réécouter sur l'application Radio France. Merci à Blanche Sabat. On lit vos BD Mythes et Meufs chez Dargaud et on vous suit sur Instagram La Nuit Remue. Merci à Amandine Claveau, directrice des études à l'Observatoire d'égalité hommes-femmes et à la Fondation Jean Jaurès. Votre livre Droits des femmes, le grand recul est paru aux éditions de l'Aube et c'était déjà en 2023. Merci à la linguiste Laurence Rosier. La riposte Femmes, discours et violence, c'est chez Payot et vous étiez en duplex de Bruxelles. Et grand merci à mon équipe, la rédaction en chef c'est Redouane Tella, la réalisation Amélie Mico et Fred Milano, la préparation Marion Philippe, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin et à la technique cette semaine, Nicolas Delmas.